L'histoire de Zachée plaît en général aux enfants ou à ceux comme moi ou comme d'autres qui se sentent parfois bien petits par rapport à tout l'idéal de l'Évangile et à tout ce qui nous est demandé de faire et de réussir dans notre vie. Et il est vrai que cet homme dont on nous dit qu'il était petit, microscopique, dit le texte grec, qui arrive à rencontrer Jésus est extraordinaire, d'autant plus que c'est une des rares fois où Jésus dit explicitement que le salut est donné à cet homme-là. Ça n'est pas souvent. Et donc, moi je me demande, mais pourquoi Zachée a ainsi eu cette chance que Jésus lui dise qu'il soit sauvé? Qu'a-t-il fait pour ça? Alors évidemment, la tentation ou l'idée, c'est de se dire, ben, c'est facile. Zachée lui-même, d'ailleurs, s'en vante. Il dit, tu vois Seigneur, moi j'ai donné la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rembourse au quadruple. Donc Zachée fait étalage de ses bonnes œuvres, et on pourrait se dire que Zachée a vraiment très bien fait, et que comme il a donné beaucoup d'argent aux pauvres, Jésus le sauve. Mais je crois que c'est une fausse piste. D'abord, Jésus ne le félicite absolument pas de donner autant d'argent pour les pauvres. Il ne lui dit pas que c'est bien. Et même, il lui dira à la fin, donc tu es sauvé, mais il conclut l'épisode par une phrase qui casse un petit peu l'ambiance pour Zachée. Il lui dit, voilà, tu es sauvé parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et donc, d'après Jésus, ce n'est pas Zachée qui se sauve lui-même par ses bonnes œuvres, mais il est fondamentalement, par sa nature, perdu. Donc, c'est Jésus qui le sauve. Ce n'est pas Zachée qui se sauve par ses bonnes œuvres. Et donc, je pense que quand Zachée se vante, finalement, Jésus écoute patiemment ce que Zachée lui dit. Il écoute patiemment cet étalage de bonnes actions, mais en fait, il n'en tient absolument pas compte. Et c'est pour d'autres raisons que Jésus lui dira qu'il est sauvé. Mais alors, si ça n'est pas par sa générosité, par ses dons, qu'est-ce qui fait que Zachée finalement arrivera à ce que Jésus lui dise qu'il est sauvé? Eh bien, je crois qu'il faut, une fois de plus, reprendre le texte très en détail. Et là, vous ne l'avez pas sous les yeux, c'est dommage, mais je vous inviterai à le regarder mieux chez vous, parce qu'on croit toujours connaître les textes bibliques, et en fait, il faut bien lire ce qui se passe. Et je crois que dans toute cette démarche, toute cette histoire de Zachée, du début à la fin, on arrive à comprendre une démarche, un cheminement chez cet homme qui finalement l'amène à ça, et que c'est ce cheminement que nous sommes invités à suivre à notre tour, à la suite de Zachée. Alors regardons de près ce qui se passe. La première chose qu'on nous dit, c'est que Zachée était à Jéricho. Alors Jéricho, ça c'est... quelques rappels de votre école biblique. Jéricho, ça n'est pas une bonne référence. Jéricho, c'est même au contraire la ville qui s'est opposée à l'entrée du peuple d'Israël dans la terre promise. C'est la ville ennemie. Jéricho, c'est l'opposition au projet de Dieu. Et donc déjà, quelqu'un qui est à Jéricho, ça n'est pas bon signe. C'est vraiment la ville de l'horreur, en quelque sorte, de l'opposition à Dieu. C'est très mauvais. On nous dit ensuite qu'il était le chef des péagers ou des publicains dans certaines traductions. Et ça, les péagers, ils étaient très, 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 très mal vus dans le peuple d'Israël. Parce qu'Israël, à ce moment-là, était sous l'occupation romaine, comme la France en 40. Et les péagers, c'était des juifs qui étaient des collabos, en fait, c'est-à-dire qui se mettaient au service des Romains pour aller pressuriser le peuple et leur tirer des sous. Ils leur prenaient de l'argent. Dès qu'il fallait franchir un pont, ils étaient à l'entrée, ils disaient « voilà, tu me donnes de l'argent pour Rome ». Et ce n'était pas tout. Non seulement ils étaient collabos, mais on sait en plus qu'ils s'en mettaient les trois quarts dans la poche pour eux. Et donc c'était des profiteurs, des collabos, enfin c'était vraiment de la racaille immonde. Et donc, et en plus, lui, c'était le chef des péagers. Et ce n'est pas très bon signe, hein, pour tout vous dire. Donc Zachée était plutôt mal parti. Et en plus, on nous dit qu'il était riche. Donc ça veut dire qu'il devait être particulièrement débrouillard pour détourner de l'argent, ce qui n'arrange pas son cas. Et puis la richesse, ce sera l'objet d'une autre prédication, mais globalement, c'est rarement montré comme un avantage pour entrer dans le royaume de Dieu d'après l'Évangile. Au contraire, Jésus dira plutôt que c'est plus difficile encore pour un riche que pour un pauvre. Et donc voilà, on voit que ce pauvre Zachée, il avait vraiment tous les handicaps possibles, toutes les raisons de ne pas être sauvé et toutes les raisons d'être rejeté par les hommes et par le Christ lui-même. Mais il y a quelque chose qui le sauve d'abord, quelque chose qui est discordant. C'est son nom. Il s'appelle Zachée. Alors pourquoi nous dit-on son nom? Après tout, on s'en fiche, il pouvait s'appeler Maurice ou Théodore, qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien, ça fait beaucoup, parce que dans la Bible, le nom représente la nature même de la personne, et le nom dit quelque chose de la nature profonde de la personne. Ainsi, Jésus, Yeshua, qui veut dire Dieu, sauve, ça n'est pas pour rien. Et à chaque fois, le nom dit, pour les Hébreux, ça dit ce qu'est la nature de la personne. Et Zachée, eh bien, ça vient de l'hébreu Zakaï, qui veut dire celui qui est pur, celui qui est parfait, qui est bon. Et là, je me dis, tiens, il y a une sorte de contradiction. Zachée a toutes les apparences, enfin, sa vie est vraiment pourrie, mais sa nature profonde, c'est la pureté et la bonté. Et finalement, je me dis, mais il est un peu comme nous tous, je dirais. Il est un peu comme nous tous dans cette espèce d'autocontradiction. Personne n'est entièrement, totalement un effroyable salopard. Même celui qui peut-être fait des erreurs, et c'est notre cas à nous tous, et c'est le mien, même si je fais le mal, au fond de chaque être, la nature profonde de l'être, il y a quelque chose qui est de la pureté et de la bonté dans le fond. C'est donc un trésor qui est parfois bien enfoui, mais il ne faut pas juger les gens sur des actes imparfaits ou sur des apparences. Et donc je pense qu'il y avait au fond de Zachée une petite bulle de bonté, d'amour, de foi, de tendresse qui s'y trouvait cachée, et c'est ça peut-être qui lui servira de moteur par-delà les apparences. Et puis donc Zachée va ainsi pouvoir faire quelque chose, et puis il y a autre chose de positif, c'est que il cherchait à voir Jésus. C'est-à-dire qu'il avait une quête en lui, une quête d'idéal, une quête d'absolu, une quête de quelque chose qui le rapproche de Dieu. Donc finalement, il s'appuie sur le meilleur de lui-même pour avancer. Et ça, je crois que c'est formidable. Parce que dès qu'il y a une volonté, une quête de trouver quelque chose, on trouve quelque chose. C'est la promesse de l'Évangile quand il dit « qui cherche, trouve ». Je crois que c'est vrai. D'expérience, je peux vous dire qu'on ne trouve pas toujours ce qu'on cherchait. Mais celui qui est en quête de quelque chose, il trouve quelque chose. Et donc c'est ça qui va sauver Zachée, c'est cette dynamique. C'est qu'il est en recherche, il est en quête. Il n'a pas Jésus en lui, mais il veut apprendre à le trouver. Il cherche quelque chose qui l'élève au-dessus de sa condition. Et qui l'élève tellement qu'il va tout faire pour monter au-dessus du ras des pâquerettes en montant dans son arbre. Et donc Zachée est en quête de quelque chose. Et c'est ça qui sauve. C'est ce que nous disons dans nos églises. Quand on dit que c'est la foi qui sauve, ce n'est pas la juste doctrine ou ce n'est pas l'émotion religieuse. La foi, c'est un chemin, c'est une quête, c'est une soif d'une réalité vers laquelle on tend. Et c'est ça qui sauve une vie. Est-ce que notre vie, elle est tendue vers la lumière ou pas? Et si elle est en quête, en recherche, eh bien, alors on peut trouver quelque chose qui pourra être source de vie. Malheureusement, il y avait des obstacles dans cette quête. Et Zachée s'en rend compte. Il y avait deux obstacles. Le premier que donne le texte, et on n'y prend pas forcément attention, mais néanmoins il est explicite, le premier obstacle signifié par le texte, c'est, nous dit-on, la foule. Il y avait une foule de gens, là, qui empêchait Zachée de voir le Christ. Alors cette foule qui était là, c'était une foule de gens qui aimaient Jésus. Donc c'était une foule de fidèles. Et là j'y vois, comme parfois dans l'Évangile, une petite critique bien acerbe, bien acide et bien mise contre l'Église. Et est-ce que parfois, effectivement, l'Église, les chrétiens, ne sont pas eux-mêmes un obstacle à ceux qui veulent découvrir le Christ? Et donc, je ne dis pas ça pour auto-culpabiliser ceux qui font partie de l'Église ou l'Église que moi je sers, mais néanmoins, il est bon de savoir que parfois, effectivement, l'Église peut faire obstacle au Christ. Et ça, on le voit que trop souvent. Je pense qu'il y a dans notre société beaucoup plus de gens qui sont anticléricaux que véritablement athées. Et beaucoup de gens s'éloignent de la foi parce que l'Église, quelle que soit sa forme ou sa dénomination, les agace, les insupporte ou leur semble, je dirais, pleine d'orgueil, pleine de toutes sortes de défauts insupportables. Et donc il faut arriver à aller au-delà de l'Église pour découvrir le Christ. Il faut arriver à passer au-delà de tous les défauts de l'Église, de tous les défauts des « bons chrétiens », entre guillemets, qui ne livrent que des mauvais témoignages de ce qu'est la foi, pour découvrir ce qu'est vraiment le Christ. Et je crois effectivement que trop souvent, l'Église, finalement, masque l'essentiel. Et l'Église cache le Christ derrière des dogmes. Et en fait, laisser tomber les dogmes, laisser tomber ce qu'il faut croire pour être un bon chrétien, laisser tomber le fait de vous obliger à croire que forcément tout s'est passé comme dans l'Évangile, à croire dans la Trinité, que Jésus est Dieu ou je ne sais quoi, laisser tomber tout ça et aller au-delà de ces dogmes de l'Église vers le Christ lui-même. C'est lui qui est le salut, pas le catéchisme qui est publié aux éditions X ou Y, pas la doctrine que vous enseigne le pasteur ou n'importe qui au catéchisme ou au temple. La seule source de salut, c'est le Christ lui-même. Et l'Église cache le Christ derrière des règles, derrière des rites, derrière des pratiques, derrière des sacrements, derrière de l'hypocrisie, derrière des belles tenues, derrière des tas de choses. Eh bien, tout cela parfois fait obstacle. Alors, il y a effectivement la nécessité, je vous disais, de ne pas regarder à la foule, mais de passer au-dessus de tout ça, au-dessus de l'imperfection de l'Église, s'élever au-dessus de ça pour essayer de voir le Christ lui-même. L'autre obstacle, et ça c'est celui que tout le monde connaît, c'est qu'il était petit, il était de petite taille, il était microscopique. Alors, il aurait pu se décourager, effectivement. Parce que parfois aussi, nous nous sentons petits par rapport aux autres, par rapport à la perfection qu'il faudrait, par rapport à cet idéal extraordinaire que donne l'Évangile. Aime ton prochain, pardonne à tes ennemis, et serre. Je suis bien petit par rapport à tout ça. Et donc, Zachée se sentait tout petit. Et là encore, c'est le danger parfois dans nos églises aussi. Nous jouons à ça sans arrêt. Où on répète aux gens qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont incapables, qu'ils sont petits, qu'ils sont mauvais. Et finalement, il y a un risque là, c'est de se dire je suis de toute façon incapable, donc je vais rester caché dans le fond de la foule afin que personne ne me voie. Mais finalement, il ne faut pas faire attention non plus à ces chrétiens culpabilisants qui, avec leur bonne conscience, nous écrasent. Il ne faut pas non plus prendre garde à notre petite taille. Et c'est là la bonne nouvelle de Zachée, c'est que si petit que vous soyez, vous pouvez rencontrer le Christ. Et ce qui va sauver Zachée, c'est que, dit le texte, il courut en avant. C'est-à-dire qu'il ne reste pas sur place à se lamenter. Il courut en avant. Et ça, c'est important. Avant même de monter dans son arbre, ça c'est ce dont on se souvient de Zachée, on nous dit « il courut en avant ». Il ne reste pas sur place. Donc, il avance et ne se décourage pas. Et puis, effectivement, vous disais-je, ça, on le sait, il monte dans son arbre, dont on nous dit que c'était un sycomore. C'est-à-dire que, certes, il prend conscience de sa faiblesse et de sa petite taille. Je ne dis pas, oubliez que vous êtes petit, oubliez que vous êtes pécheur, mais néanmoins, si vous êtes pécheur, certes, vous l'êtes, et petit, vous l'êtes, et moi aussi, mais essayons d'y remédier. Voilà, il faut juste considérer que notre petitesse, quelle qu'elle soit, n'est pas une fatalité. Il faut juste en avoir conscience pour réagir. Je dirais que je suis petit spirituellement, je le sais, mais je me soigne. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est petit qu'il faut s'en contenter. Et donc, il se soigne. Il se soigne comment ? Il se soigne en montant dans un sycomore. Là encore, excusez-moi, c'est une petite leçon de théologie, n'est-ce pas ? Le sycomore, qui est un figuier sauvage. Le figuier, dans la Bible, c'est considéré comme le lieu même de l'étude de la Bible. D'ailleurs, c'est une expression rabbinique quand on dit « se mettre sous le figuier », ça veut dire « étudier l'écriture ». Pourquoi ? Parce qu'une figue, c'est un fruit qui est bourré à mort de pépins, de grains. Et donc, c'est un fruit qui est plein de graines et c'est extrêmement fécond. Et donc, se mettre sous le figuier, ça veut dire étudier la Torah, c'est-à-dire se mettre sous un arbre dont on va pouvoir recevoir tous ces fruits merveilleux, pleins de fécondité, pleins de vie et pleins de trésors. Et d'autre part, et donc on peut dire que Zachée va se rapprocher de l'étude de la Bible et il va grimper dans cette étude. L'image est belle, n'est-ce pas ? Branche à branche, il va monter dans l'étude de l'Écriture. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que le figuier, la tradition rabbinique dit aussi que c'était l'arbre de la connaissance qui était au centre du jardin. Alors, la tradition latine en a fait un pommier, mais en fait, l'arbre de la connaissance qui était interdit, vous savez, à Adam et Ève dans le paradis, la tradition juive, elle dit que c'était un figuier. Bon, prenons cela. Et donc l'interdiction, excusez-moi, ça va être un peu compliqué, mais écoutez bien, l'interdiction de manger le figuier, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, cela veut dire que le texte ne disait même pas de manger le fruit de l'arbre, mais le texte dit qu'il est interdit de manger l'arbre. Manger l'arbre, ça veut dire prendre l'arbre, donc prendre la Bible et la rabaisser à son niveau et la remettre en soi. Et donc il est interdit de manger l'arbre, mais on doit grimper dedans, voyez-vous ? C'est-à-dire que la Bible a une altérité, elle est plus grande que nous. Et il ne faut pas se dire je la rabaisse en la démystifiant peut-être trop ou en la rendant comme un texte parmi d'autres finalement ou en faisant une chose tout à fait quotidienne et sans valeur. Il ne faut pas manger l'arbre, c'est-à-dire le mettre en soi, mais il faut considérer que ce livre est plus grand que moi et que donc je dois grimper dans cet arbre. Ce n'est pas la même chose, voyez-vous. Il faut s'élever dans l'arbre, monter dans l'étude de la Bible et ne pas la ramener à son niveau. Il faut s'élever dans la méditation, par la réflexion, et non pas pour être plus grand soi-même, mais pour pouvoir apercevoir quelque chose de plus haut. Et je pense qu'effectivement, dans cette lecture, dans cette étude de la Bible, eh bien, cela nous permet de voir les choses d'au-dessus et comprendre que cette Bible, elle est plus intelligente que nous, elle est plus profonde que nous et plus vraie que nous. Alors là, il faut se méfier de ceux qui prétendent être plus malins que la Bible, prétendent que la Bible a tort ou ceci, cela. La Bible, elle, on peut s'élever dedans et grandir dedans. Alors après, effectivement, il va voir le Christ à partir de là, et il va être vu, mais pas tout de suite. Zachée va rester assez longtemps perché en haut de son arbre, d'après le texte. Hein. C'est pas dès qu'il est en haut, il voit le Christ, c'est merveilleux. Il monte et il attend. Il y a un temps qui passe. Et finalement, le Christ passe et il le voit. Alors d'abord, ça c'est important, c'est l'importance du temps. On voudrait, surtout nous aujourd'hui, que tout se passe tout de suite et très vite. Donc j'étudie la Bible, je lis un passage le soir avant de me coucher, et puis comme ça, immédiatement, je vais avoir la foi qui vient. Ça n'est pas si simple. Il y a un temps de maturation, et il y a un temps pour que cette graine du figuier s'enracine et puisse effectivement de donner de bons fruits. Et donc, Zachée voit le Christ. Alors, est-ce que c'est fini ? On pourrait dire oui, il a vu le Christ, tout va bien. Mais non, ça n'est pas fini. C'est là où la chose devient très intéressante. Ça n'est pas fini parce que le texte va nous montrer que le but même de notre travail spirituel, j'allais dire, quand on s'élève dans le texte, d'après Zachée, le but de notre vie spirituelle n'est pas l'expérience spirituelle. L'expérience spirituelle, tout à coup, de découvrir qui est le Christ, de prier Dieu, d'aimer Dieu, c'est très bien, mais ça n'est pas tout. Il faut aller plus loin. Et on le voit, la première chose que lui dit Jésus, quand Zachée le voit et que Jésus le voit, la première chose que lui dit Jésus, c'est « Zachée, descends !» Ça, c'est incroyable. Après que je vous ai dit tant de belles choses sur le fait qu'il faille s'élever dans la Bible, monter au-dessus des pâquerettes, aller rencontrer Jésus et tout ça, la première chose que dit Jésus quand on le voit, c'est « redescends sur terre ». Redescends sur terre, oui, parce que l'élévation par la lecture est un temps et pas un but. Et qu'il faut dépasser la lecture de la Bible et ne pas rester accroché dans les alléluiages de la foi, mais peut-être qu'effectivement le chrétien doit redescendre sur terre pour être dans le monde, pour agir dans le monde, pour rencontrer ses frères et ses sœurs et pour se mouiller et se salir dans la boue du monde, parce que le chrétien ne doit pas rester perché sur ses figuiers dans la contemplation du Christ. Et donc il faut redescendre même pour avoir une vraie rencontre avec le Christ. Et finalement, ça montre là un stade le plus élevé de la mystique, peut-être, c'est d'être capable de recevoir le Christ vraiment chez soi et en soi, pas juste de l'apercevoir. Mais je vous ai dit, le but de la mystique, c'est pas simplement de s'élever pour rencontrer Dieu, peut-être que c'est aussi parfois de s'abaisser, de redescendre, pour aller près du monde et pour recevoir vraiment Dieu en soi. Donc vous voyez, la mystique, c'est pas la foi n'est pas une sorte de mat de cocagne, comme s'il fallait essayer de grimper sur un poteau glissant par la foi, par la prière, par la lecture, pour arriver d'obtenir, de décrocher le saucisson de la foi extraordinaire. Mais finalement, c'est aussi parfois de descendre et de se laisser accueillir par le Christ, de s'abaisser soi-même pour recevoir Dieu, de descendre même de ses prétentions. Je vous disais, Zachée a voulu se dire « je vais essayer d'être plus grand ». Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais parfois il ne faut pas chercher à être plus grand, mais peut-être au contraire redescendre et se rendre humble et faible, parce que c'est parfois aussi quand on est humble et faible qu'on peut recevoir le Christ, parce que le royaume de Dieu, il ne se gagne pas par un travail personnel, il se reçoit. Et le royaume de Dieu, il est donné dans l'humilité. Et que finalement, peut-être même que Dieu, il n'est pas en haut de la montagne que nous tentons d'escalader, mais il nous attend en bas. Alors me direz-vous, pourquoi avoir monté avant? Ça ne servait à rien puisqu'il suffisait qu'il soit en bas. Pourquoi ai-je dit qu'il fallait s'élever dans la spiritualité si tout à coup, ce que je vous dis, c'est que finalement, il suffisait de rester en bas dans l'humilité pour accueillir Dieu? Eh bien, parce que la vie spirituelle est extrêmement complexe. C'est extrêmement compliqué. Et que finalement, le but, ce n'est pas de rester en bas, les deux pieds dans le fumier, en attendant que Dieu vienne nous sauver de lui-même. Le but, ce n'est pas de rester en bas à attendre, mais c'est d'être capable de s'élever dans certains moments et de s'abaisser dans d'autres. Et que la vie spirituelle, en fait, c'est cette espèce de mouvement de va-et-vient qui consiste à s'élever à Dieu et à d'autres moments de se dire « Mais Seigneur, je suis petit et faible et j'ai juste besoin que tu me reçoives et que tu me sauves. » Et c'est sans arrêt le fait de monter dans la lecture et de redescendre dans l'humilité et dans la tendresse. Et notre vie doit être sans arrêt, je dirais, dans ces deux mouvements. Si on en oublie un, on tombe. Si on ne fait que rester en bas, eh bien on va se complaire dans une sorte de médiocrité misérabiliste et auto-culpabilisatrice qui ne mènera à rien. Si on ne fait que de monter dans les figuiers, je ne suis pas sûr qu'on arrivera vraiment jusqu'à Dieu d'abord, mais on risque de se casser la gueule de son figuier un jour ou l'autre, et ça peut faire très mal. Et donc il faut monter et descendre, il faut s'élever et s'abaisser. Et c'est ce mouvement permanent, que les gens du Moyen-Âge appelaient la respiration mystique, que l'on arrive progressivement à développer, cette présence de Dieu en soi. Si Zachée n'avait pas eu conscience de sa faiblesse, de sa petitesse, il ne serait pas monté. S'il n'était pas monté, il n'aurait pas rencontré le Christ. Et il n'aurait pas vu ce Christ qui lui demande de descendre. Alors voyez, par exemple, je vous ai dit que c'était compliqué. Mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il ne fallait pas manger la Bible, mais qu'il fallait grimper en elle. Et bien finalement, je suis peut-être allé un peu vite. Parce que de dire qu'il ne faut pas manger la Bible, c'est pourtant ce que dit Jésus. Quand à la fin de sa vie, il dit « prenez et mangez, ceci est mon corps ». Donc il dit « tout cet évangile, toute cette parole et tout ce que je suis, mangez-le ». Donc j'ai eu tort tout à l'heure. Ou même dans l'Apocalypse, Apocalypse 10, il y a l'ange qui se tient et qui dit à Jean « prends le livre, là qui est dans la main de l'ange, qui est la Bible, prends-le et avale-le ». Et donc tout à coup, ce qui était interdit au début dans la Genèse, de manger du fruit du figuier, c'est-à-dire manger la Bible, à la fin de l'Apocalypse, on nous dit qu'il faut le manger. Et donc je ne comprends plus rien. Ou alors, il faut comprendre qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Et qu'il faut d'abord s'élever dans l'Écriture, et ensuite, il faut le manger. D'ailleurs, si vous regardez le « prenez et mangez » de Jésus, c'est dit tout à la fin de l'enseignement du Christ, au moment de son dernier repas. Ce n'est pas dit au début. Au début, il dit « convertissez-vous ». Au début, il donne des paroles d'exhortation morale. Et à la fin, il dit « écoutez, laissez tout tomber, simplement nourrissez-vous du Christ. Mangez le Christ et ça ira. Je ne vous demande rien d'autre. » Mais ça, c'est à la fin, pas au début. De même, je vous ai dit que dans la Genèse, il est dit qu'il ne faut pas manger le fruit de l'arbre. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'il faut le manger. Mais la Genèse, c'est le premier livre, et l'Apocalypse, c'est le dernier. Et donc, il y a tout un cheminement entre les deux. Et il ne faut pas remplacer la Bible juste par la fin, où il ne faudrait pas dire que dès le moment qu'on communie et qu'on dit « prenez et mangez ceci et mon corps », on pourrait effacer tout l'enseignement du Christ et tout l'évangile qui précède. Il faut manger, il faut descendre, mais ça c'est le but, mais avant il faut s'élever dans la Bible. Je vous disais, c'est comme l'échelle de Jacob aussi, cette belle image de l'Ancien Testament, où on nous dit qu'il y a des anges qui montent et qui descendent sur cette échelle qui est entre le ciel et la terre, et que c'est donc ce mouvement permanent qu'il faut faire entre soi-même et Dieu. Il faut s'élever en Dieu et il faut redescendre sur terre. Il faut se sentir élevé par Dieu qui nous dit que nous sommes des princes, et il faut parfois aussi se rappeler que nous ne sommes que des pauvres petits hachés avec les pieds dans la boue. Et si on sait faire effectivement cette espèce de double mouvement de montée et de descente, alors on reçoit le Christ en soi et on trouve en lui une source de joie et de salut. Et alors, on peut dire qu'on appartient au peuple de Dieu et que, comme Jésus dit que Zachée est considéré comme un fils d'Abraham, c'est-à-dire qu'on devient héritier de la promesse. Mais l'héritier, je vous rappelle que l'héritier bénéficie de quelque chose qu'il ne mérite absolument pas. L'héritier, c'est celui qui reçoit quelque chose qui lui est donné, parce qu'il a eu la chance de naître là et que ses parents ou ses grands-parents ont travaillé pour lui. Être héritier de la promesse nous rappelle que ce n'est pas nous qui nous sauvons nous-mêmes par notre propre force et notre perfection, mais que nous savons le recevoir. Et à ce moment-là, nous gagnons quelque chose, oui, eh bien nous gagnons par grâce d'être dans ce peuple de Dieu, c'est-à-dire d'être un enfant de Dieu, d'être dans la joie pour la vie et pour l'éternité. Amen.